Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, comme Thierry l'a dit, je ne suis pas seul. Mon invité est probablement connu par 99% de la population calédonienne. Michel Bénévic, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Très parfait, vous êtes bien installé ?
Super.
Ok. Alors vous allez nous suivre tout le long de cette émission et je voudrais revenir d'abord sur la semaine dernière. En fin d'émission, nous avions écouté le premier mouvement de la 6e symphonie dite pastorale de Ludwig van Beethoven. Un éveil d'impression agréable en arrivant à la campagne, ce sont les mots de Beethoven lui-même en ce qui concerne ce premier mouvement. Mais ce n'est pas toujours souriant et radieux, comme le prouvent les 3e et 4e mouvements. Le 3e est la réunion joyeuse des paysans, dansant, durant laquelle peu à peu le ciel s'assombrit, laissant place au 4e mouvement, la tempête et l'orage qui gronde. Une interprétation de l'orchestre du Festival de Marlborough, dirigé par Pablo Casals. L'orage est passé, la tranquillité est de retour. Nous sommes obligés de nous arrêter alors que commence le cinquième et dernier mouvement de la sixième symphonie de Ludwig van Beethoven. Nous venons donc d'écouter les troisième et quatrième mouvements qui s'enchaînent. La réunion des paysans, joyeuse, suivie de l'orage qui a grondé sur la campagne, par l'orchestre du festival de Marlborough, dirigé par Pablo Casals. Pablo Casals, Michel, j'imagine que ça vous parle?
Oui, c'est un nom très connu, évidemment.
Bien sûr, un grand violoncelliste.
Oui.
Vous l'avez entendu dans quoi pour les premières fois, ça vous...
Ouh, ça fait très longtemps.
Ouais.
Parce que ça remonte aux années 90.
Bien sûr.
Ouais.
Grand interprète de Bach, hein, Pablo Casals. On sait qu'il jouait toutes les suites de Bach tous les jours. Enfin, toutes. Il faisait la première suite le lundi, la deuxième suite le mardi, etc., etc. Et comme il y en avait, comme il y en a six, on lui disait, mais maître, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Et ben, il rejoue la sixième, une deuxième fois. La sixième, oui. Samedi, la sixième, le dimanche. Et voilà, donc parlons d'autre chose maintenant, Michel, maintenant, si vous le voulez bien. Je sais peu de choses sur vous. J'ai appris récemment, lorsqu'on s'est rencontrés, qu'avant d'être dans le monde du jazz et de l'orgamonde, vous enseignez le piano classique, donc vous avez une formation de musicien classique à la base, c'est ça? Ça s'est déroulé comment?
Ah oui, complètement. Je suis, bon, c'est une longue histoire, mais je suis rentré à l'école territoriale de musique, l'ETM, comme on l'appelait avant, 1981, il me semble.
J'étais pas né. Donc
Et j'ai donc suivi une formation de piano classique.
D'accord.
Avec Pascal Vanek, que je salue au passage si par bonheur il écoute l'émission. Voilà, et puis une formation aussi, formation musicale, écriture, analyse, contrepoint, etc. à l'époque. Quoi.
C'était un environnement familial qui était favorable aussi à ça?
À l'époque, l'école de musique était très familial, effectivement.
Ah,
ouais. Ouais. Il y avait une très bonne ambiance, il y avait vraiment... c'était très vivant. Et je me souviens que même je sortais en boîte de nuit avec Pascal.
D'accord.
Donc il y avait vraiment une complicité en fin de compte entre prof, élève. Bon, je suis rentré à l'école territoriale, j'avais quand même 16 ans. J'étais quand même déjà assez grand, on va dire. Donc ça n'a pas été facile. Hein. J'ai dû bosser énormément parce que physiquement, le piano...
Ouais, c'est normal. Alors, en préparant cette émission, vous avez mis le souhait d'écouter le deuxième concerto de Rachmaninoff. Pourquoi?
Ah, Rachmaninoff, parce que c'est quand j'écoute Rachmaninoff déjà, je suis complètement bouleversé. Alors, c'est vrai que les gens ici me connaissent plus pour dans le domaine du jazz et autres, mais la musique classique, ça fait partie de ma vie. Hein. J'écoute pas assez souvent. Mais j'écoute quand même beaucoup de musique classique à la maison, surtout aujourd'hui avec l'outil Internet, c'est quand même fabuleux, on avait pas ça à l'époque.
Bien sûr.
Et donc on peut vraiment voir des concerts, et voir les artistes vraiment sur scène, alors qu'à l'époque c'était pas évident à travers le vinyle ou les CD, uniquement quoi.
Bien sûr, ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a une diffusion beaucoup plus importante et un partage du savoir qui est plus général, c'est évident. Alors, ce deuxième concerto de Rachmaninoff, ça tombe bien parce que j'ai choisi une version peu connue mais complètement légendaire. C'est celle de Julius Katchen, qui est un pianiste américain, peut-être que vous connaissez, non? Et qui est mort à 42 ans. Il est mort assez jeune, mais il a fait une très très grosse carrière. Il a enregistré aussi avec beaucoup de grands musiciens, des violoncellistes, des violonistes. Et il était très adepte des concerts avec des programmes très importants. On sait qu'il a fait en 4 jours à Londres l'intégrale de Brahms pour piano seul, ce qui est quand même un sacré monument. Et donc la genèse de ce concerto, parce qu'il faut le savoir, pour rappeler un petit peu, c'est que Rachmaninoff avait composé sa première symphonie qui avait été créée, mais c'était un échec cuisant. C'est-à-dire que le public n'a vraiment pas beaucoup aimé, l'orchestre n'a pas super bien joué apparemment. Le chef d'orchestre qui était Glazounov avait bu quelques heures de trop, peut-être même quelques bouteilles. Et il est parti en dépression, bien sûr. Il est allé voir, il a fait quelques séances de psy, quelques séances d'hypnose même. Je crois que c'est surtout l'hypnose qui a marché. Et puis il s'est remis à composer justement ce deuxième concerto de Rachmaninoff qu'on va tout de suite écouter maintenant par Julius Katchen. Exactement. Waouh. C'était le premier mouvement du deuxième concerto pour piano de Serge Rachmaninoff avec le pianiste américain Julius Katchen, accompagné par le London Symphony Orchestra, George Solti à la baguette. Quelle version incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel, du maestro Katchen?
C'est un grand, très grand virtuose. c'est un, très intéressant parce que selon les pianistes, comme tu le sais, les tempos sont différents.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et là, la fin, elle est particulièrement.
Oui. Ouais, c'est époustouflant.
Ouais. C'est époustouflant.
Il y a une fugue, une fougue.
C'est une fuite en avant, quoi, vraiment. Ouais.
Surtout dans un concerto qui est à la base très libre, hein, finalement. Donc c'est sûr que c'est assez génial. Alors tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez commencé à le thème à 16 ans, mais vous n'avez jamais touché un piano avant.
J'avais pris 2 ans de cours de piano avec Jean-Pierre Payard.
D'accord. Ok.
Personnage très connu en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont mes parents qui m'ont ensuite incité vraiment à... Et puis l'école, en fin de compte, c'était dans les années 70, c'était les Amis de la Musique, si je me trompe.
D'accord.
C'était une association. Mmh. Et ensuite, elle a été territorialisée, officialisée, quoi, en début des années 80. Donc c'est à ce moment-là que je suis rentré.
D'accord, je vois. Alors, on va rester dans le genre du concerto encore un petit peu, puisque vous m'avez dit également apprécier le concerto d'Edvard Grieg, compositeur et pianiste norvégien, qui a fait carrière lors de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est assez rare de parler de ce concerto.
Oui, alors, pour revenir 2 secondes sur Rachmaninoff, il y a un très beau film qui est sorti en 2007, qui s'appelle Rachmaninoff, tout simplement. Bon, j'ai vu la version en VO, sous-titrée évidemment, parce que je comprends pas le russe. Mais c'est un film qui m'a moins bouleversé au plus haut point. C'est la vie de Serge Rachmaninoff et c'est on comprend mieux sa musique évidemment quand on connaît la vie de l'immense personne que c'était, quoi,
bien sûr.
Et de ce qu'il a pu endurer.
Oui, oui.
Hein, alors on pêchait quand même pendant 10 ans de composer, quoi. C'est quelque chose d'épouvantable.
Et puis c'est surtout qu'il a fini par vivre très loin de sa patrie. Il était très très attaché à sa région natale.
Complètement. On l'a utilisé en fin de compte.
Bien sûr, évidemment.
Comme un citron, quoi.
Ouais. Exactement. Exactement. Donc ce concerto d'Edvard Grieg, pourquoi celui-là?
Alors parce qu'il me rappelle quand j'étais en France au conservatoire, le professeur d'accompagnement qui était devenu un ami, qui est devenu un ami, Michel Amadieu. Et donc je lui ai donné l'envie d'aller s'installer sur les îles, parce qu'il est installé à l'île de la Réunion depuis très très longtemps. Il est au conservatoire de Saint-Denis. Et lui, en fin de compte, il est rentré au conservatoire, il avait 14 ans, il en est sorti avec 16 ans, à 16 ans avec son premier prix. Et je crois que c'est 20 ou 21 ans qu'il avait le prix interrégional. Et qu'il a, en fin de compte, il est parti ensuite faire son... jouer à Helsinki.
D'accord.
Avec le Philharmonique, où il avait joué le concerto de Grieg. Et j'avais eu une copie de ce concerto, copie vidéo, enfin cassette vidéo, quoi.
Bien sûr.
Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé quand j'étais conservatoire, parce que déjà c'était un grand fan de Glenn Gould.
Ah oui.
Donc il avait tous les inédits de Glenn Gould. Donc j'ai dû écouter, mais c'est effectivement Glenn Gould reste pour moi l'un des plus grands génies aussi de.
C'est sûr.
Au niveau, bon, il a fait beaucoup parler de. De lui parce qu'il avait tendance un petit peu à bouleverser les codes.
Oui, bien sûr.
Mais donc là, c'est plutôt en souvenir d'un ami que j'ai rencontré en 2005 et en 2008 lors d'une tournée à l'île de la Réunion dans le cadre de Festival du Jazz. Et l'immense plaisir de revoir cet ami, quoi, Michel Amadieu, qui est maintenant qui dirige, je crois qu'il dirige l'orchestre. Il est plus dans la direction d'orchestre que piano.
D'accord.
Pour des problèmes de santé, il a dû. Donc c'est en souvenir à cet ami.
Très bien. Alors écoutons une version assez rare parce que on ne pense pas forcément à lui quand on évoque autre chose que du Chopin, c'est Arthur Rubinstein. Et pourtant quand il était jeune, il a joué pour Grieg qu'il a auditionné alors qu'il était encore enfant. Donc nous allons écouter le final, Allegro moderato, molto et marcato, l'orchestre de la RCA dirigé par Alfred Wallenstein.
Thank you.
Le dernier mouvement, Allegro moderato molto et marcato, donc Allegro très modéré et marqué, vous l'aurez compris, du concerto pour piano de Grieg, interprété par Arthur Rubinstein et Alfred Wallenstein, à la direction de l'orchestre de la RCA. L'orchestre de la RCA, c'était un orchestre fondé en 1940 par la maison de disques RCA Victor, dans le but de faire des enregistrements. Il regroupait des musiciens d'autres orchestres majeurs de la région de New York et a connu des chefs comme Stokowski, Fritz Reiner, Cripps et Leonard Bernstein, un très bel orchestre, très, très efficace. Vous écoutez bien l'heure classique sur Radio Rythme Bleu. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Benebig. Michel, à quel âge et dans quelles circonstances avez-vous découvert et décidé de jouer de l'orgue à monde ?
Ah, oui. L'orgue à monde, c'est plutôt le son au départ de cet instrument dont j'étais plutôt fan, on va dire, ou amoureux de cette sonorité. C'était, j'avais devais avoir 6 ans ou 7 ans.
Ah oui, ça a commencé très tôt.
Oui, 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 à travers les vinyles de mes parents.
Oui.
L'orgue à monde qui était populaire dans toutes les musiques, on l'entendait, il était très présent. Il a pratiquement disparu des pop charts dans les années 70-80, et puis il a fait son retour dans les années 90. Et là où vraiment j'ai pu découvrir cet instrument concrètement, hein, c'est en France justement, dans le magasin où je louais mon piano. Il y avait un des vendeurs qui avait un orgue à monde chez lui, donc un jour je suis allé chez lui, et puis alors là c'était le coup de foudre.
Ah oui, ouais, je peux comprendre aussi. Moi j'ai découvert ça, cet instrument, quand j'ai écouté les Doors, moi.
Ah oui, aussi, là ouais. C'est pas l'orgue à monde, c'est du Vox Continental.
Ah d'accord. Ouais,
c'est un clone, on va dire.
Ah, c'est pour ça.
C'est,
je me suis fait avoir.
Par contre, quand j'étais dans ce magasin là, en métropole, ça s'appelait Bietri Musique, et il y avait un choix de piano extraordinaire, de l'Est justement. Et j'ai pu jouer sur des pianos, je me rappelle de ce piano August Forster,
oui,
qui a une sonorité assez waouh. C'était vraiment très chaud, très rond, très vraiment. J'ai eu la chance, de étant dans l'est de la France, de pouvoir essayer différents types de pianos, justement de l'est.
D'accord.
Une petite parenthèse comme ça.
Ok, très bien, très bien. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Peut-être que c'est une découverte, peut-être pas. C'est la création du monde de Darius Milhaud. Vous connaissez ?
Oui, 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 oui. C'est quelque chose qui me parle. Oui, bien sûr. Mm-hmm.
Alors pourquoi j'en parle ? C'est parce que comme on est un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui avec vous entre le classique et le jazz, c'est une œuvre magistrale. C'est un chef-d'œuvre prodigieux qui a engendré d'ailleurs d'autres chefs-d'œuvre, un peu comme le Sacre du Printemps l'avait fait avec la suite Sit en 1914. Alors pour cela, Darius Milhaud s'est appuyé sur le jazz. Nouvelle-Orléans, car il a pensé que c'était cela qu'il fallait, en fait, pour exprimer la naissance du monde, tout simplement. Pour ce ballet, parce que c'est un ballet de danse classique, il voulait un ballet africain, donc Blaise Cendrars a fourni l'argument, une sorte de mythologie païenne, mais le peintre Fernand Léger s'est associé pour le décor et les costumes. Alors, malgré l'ambiance africaine, c'est un ballet suédois qui assurera la création en 1923. C'est plutôt comique.
C'est pas mal, ça. Ouais.
C'est pas mal. Il y a 5 parties dans cette création du monde. La première partie, l'apparition des plantes et des animaux. La deuxième, les animaux dansent. C'est un moment rythmé. La troisième partie, c'est la naissance du couple humain. La quatrième, c'est la danse orgiaque de l'homme et de la femme, la danse du désir. Et pour terminer, le couple s'isole dans un baiser. C'est le printemps de la vie humaine. La création du monde de Darius Milhaud, chef-d'œuvre incroyable, c'est un ballet dont nous écoutions la musique, interprété par l'Orchestre de Paris, dirigé par Georges Prêtre. Une réaction peut-être, Michel, par rapport à ce que nous venons d'entendre, c'est incroyable, non, cette musique?
Oui, ça fait beaucoup penser à Gershwin, effectivement.
Ouais, c'est ce qu'on se disait, oui. Et puis, vous mentionnez aussi le côté très moderne aussi, qui fait référence un peu.
L'impression de voir les voitures, entendre les klaxons, etc. Exactement comme,
comme à l'époque.
Un Américain à Paris, par exemple, de Gershwin, où vraiment on a l'impression d'être... C'est pourrait pas ce que une musique de film.
Bien sûr.
C'est très imagé en fin de compte.
Tout à fait. Alors pour terminer cette émission, on est déjà très en retard. Vous avez eu l'excellente idée d'écouter une musique qui vous plaît beaucoup. C'est rare de la mentionner. Celle-là aussi, c'est la musique espagnole et particulièrement celle de Granados.
J'adore le répertoire espagnol. C'est peut-être mes origines, je sais pas, mais c'est lié peut-être à ça. Mais j'aime beaucoup Granados, effectivement. Et j'aime particulièrement la pianiste Alicia de la Roca.
Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est elle qu'on va écouter. J'ai choisi pour vous deux extraits. Le premier, c'est une marche extraite des contes de jeunesse. Et le deuxième, c'est extrait des croquis ou des esquisses. La fée et l'enfant, le tout interprété justement par Sa Majesté Alicia de la Roca. Vous écoutez RRB, c'est ainsi que se termine cette heure classique pour aujourd'hui avec une marche suivie de La Fée et l'Enfant que nous venons d'écouter à l'instant, deux pièces pour piano seul d'Enrique Granados interprétées par la grande Alicia de la Rocha. Merci Michel Bénébic d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité, c'est vraiment un grand plaisir.
Le plaisir est partagé. Quand est-ce que le public calédonien peut-il venir vous écouter prochainement?
On a toute une série de concerts justement en décembre sur répertoire de chants de Noël et gospel.
Ah super, Et ça sera où?
Oui, il y a plusieurs endroits.
D'accord.
Notamment, on sera sur la place des Cocotiers le dimanche 15, en soirée.
D'accord.
Donc, au niveau de l'échiquier.
Bien
par
sûr.
Exemple, à 19, je crois que c'est 19h30, je crois que c'est ça.
Très bien.
Par exemple. Okay. Il y a pas mal d'endroits aussi pour fêter cette période de Noël. Quoi.
Exactement. Eh bien, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur le site de Radio Rythme Bleu. Merci à Thierry pour la réalisation de l'émission, bien sûr. Très bon week-end à tous.